La semaine dernière, nous avons entendu Jésus nous donner l'explication de la parabole dite du semeur. La semence, nous dit-il, c'est l'évangile, la parole de Dieu pour le salut des hommes. Les différents sols repris dans la parabole représentent quant à eux le cœur de ceux où la parole est semée et leur état de conditionnement. La pointe de la parabole, c'est le fruit porté par les véritables disciples dont le cœur préparé et ouvert accueille la bonne semence. Nous avions terminé en disant que tout disciple de Christ était appelé à devenir un semeur à son tour. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir avec moi sur la deuxième parabole enseignée par Jésus et rapportée dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu qui en compte 7. Elles ont toutes pour objet, rappelons-le, le royaume de Dieu. J'aimerais pour débuter faire quelques remarques préliminaires qui nous permettront, du moins je l'espère, de placer déjà quelque peu le cadre de référence de la parabole en question. L'Église a plus ou moins 2000 ans d'existence. Beaucoup de choses se sont passées au cours de son histoire, et ce n'est évidemment pas fini, puisque cette histoire continue encore de nos jours. Elle prendra fin, du moins sous la forme que nous connaissons, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra en gloire parmi nous pour installer son royaume sur la terre. L'Église entrera dès lors dans une dimension éternelle qui n'aura plus grand-chose à voir avec ce que nous pouvons bien vivre aujourd'hui, et c'est tant mieux. Ce sera mieux. Indépendamment des vicissitudes de son histoire et des bonnes et mauvaises choses perpétrées en son nom, une réalité, une vérité, a toujours caractérisé les véritables disciples de Christ, les enfants du Père, une chose que va souligner notre parabole. Et cette chose est que l'appel à être dans le monde est l'appel à être dans le monde sans être encore du monde, être dans le monde sans ne plus faire partie du monde. Ce qui entraîne comme conséquence directe que les chrétiens ne sont pas censés vivre de la même manière, de la même façon que les non-chrétiens. C'est la conséquence directe de cette affirmation de Jésus en Jean 17, si ma mémoire est bonne. Je les laisse dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Alors, cette vérité énoncée ici peut nous paraître évidente, pourtant, elle ne l'est pas toujours dans les faits. Tout comme l'Église de Corinthe avait en son temps accueilli un homme qui couchait avec la femme de son père, avec sa belle-mère, quelle idée, me direz-vous, on accueille de nos jours avec beaucoup de bienveillance et une absence totale de remise en question des chrétiens vivant très éloignés des standards attendus par celui qu'ils appellent leur Seigneur. La tolérance, même dans l'Église aujourd'hui, est de mise. Des péchés qui, il y a une cinquantaine d'années, étaient quasi inexistants dans les Églises sont aujourd'hui monnaie courante. De nos jours, pour reprendre l'expression biblique, on appelle le mal bien et le bien mal. On change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, même donc parfois dans l'Église. Alors que la chose existe dans le monde, soit, mais qu'elle existe aussi dans l'Église, il faut y voir au mieux une évolution et au pire, un grave danger. Alors les raisons de cet état de fait sont sans doute nombreuses, mais il en est une en tout cas qui me paraît évidente et je l'ai déjà évoqué dans de précédents messages, c'est la prolifération pendant des générations d'un évangile à l'autre bout en disant « Dieu t'aime et tu feras en fait un peu ce que tu veux ». La notion donc selon laquelle la foi n'est rien de plus qu'une vague adhésion à quelques faits ou principes bibliques. Si la repentance, la sainteté de vie et la soumission à l'autorité de Christ sont facultatives, comment espérer dès lors que les chrétiens soient différents de ceux qui ne le sont pas. De fait, il est aujourd'hui acté que les chrétiens vivent plus ou moins de la même manière que les non-croyants. Ceux qui ont quelques années de pratique des milieux protestants évangéliques connaissent sans doute l'expression « chrétien charnel ». Expression inventée par certains théologiens pressés de justifier la présence au sein des églises locales de chrétiens qui en avaient le nom, mais n'en avaient pas la vie. Et bien entendu que les véritables chrétiens pêchent et se comportent donc parfois comme leur dicte leur nature humaine. Par contre, la Bible n'appuie nulle part la notion selon laquelle de véritables chrétiens auraient la liberté d'adopter un style de vie qui infirmeraient leur appartenance à la famille de Dieu et leur soumission à Christ. Je le rappelle, c'est le diable et ses disciples qui se transforment parfois en anges de lumière, selon l'expression de l'apôtre Paul, et pas les chrétiens qui sont supposés se déguiser en enfants du diable. Lorsque la parole de Dieu nous enseigne qu'il est difficile de séparer les brebis des boucs, au travers d'une autre image saisissante contenue dans l'Évangile, le sens n'en est pas que les chrétiens peuvent ou auraient le droit de paraître être sans Dieu, mais plutôt que ceux qui sont sans Dieu sont capables d'imiter les enfants de justice, de faire semblant d'être chrétiens. En d'autres termes, le troupeau est censé prendre garde aux loups déguisés en agneaux et non pas accepter et rester sans voix face aux agneaux qui se conduisent comme des loups. À cet égard, la parabole de Jésus sur l'ivraie et le bon grain que nous allons maintenant aborder a souvent été mal comprise. Cette parabole utilise des images semblables à celles de la parabole précédente dite du semeur ou des terrains, parce qu'on va retrouver la culture agraire dans cette parabole, un environnement agraire. Mais l'objectif de notre Seigneur est ici bien différent, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte maintenant. Et je passe à la lecture de la parabole. Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Excusez-moi. Voilà en ce qui concerne la parabole. Je sais bien que ce que je vais dire maintenant n'a absolument aucune importance, puisque vous avez tous bien compris, je suppose. Je pense que c'est notre fille hier qui, suite à son groupe de la semaine, a encore dit que parfois, elle ne comprenait pas Jésus. Face à une question toute simple, il répondait de manière complètement, qui paraît en tout cas complètement démesurée et hors sujet. Du style, Seigneur, je veux te suivre où tu iras. Il dira, le fils de l'homme, les renards ont des tanières, et le fils de l'homme n'a pas une pierre pour poser sa tête. Ce genre de réponse qui est très difficile à accepter pour ma fille. Je ferme la parenthèse pour vous dire parfois que ces textes, nous y sommes habitués, nous les lisons, peut-être couramment, nous sommes souvent dans l'Évangile, quand même, pendant la semaine, je suppose. Et le parabole, on connaît, on a entendu, et quand on la lit, on se contente de la lire et on passe un peu, on prend pas le temps nécessaire d'approfondir la chose. Alors, j'aimerais dire pour commencer que la pratique de semer des mauvaises herbes dans le champ du voisin, ça va peut-être vous étonner, mais était monnaie courante à l'époque. C'était tellement courant que Rome avait dû statuer, avait dû édicter une loi pour l'interdire et la réprimer même assez violemment. C'était forcément un moyen, quasiment certain, de ruiner purement et simplement le voisin en question. Vous ruinez sa récolte, vous le poussez à l'indigence. Si vous louez son champ, c'était donc une bonne façon de ce qu'il vous le vante à un prix beaucoup plus bas. C'était donc courant. Dans notre parabole, l'ennemi d'un homme, nous dit Jésus, avait semé de l'ivraie dans son champ. Petite précision, le mot grec pour ivraie est zizania, qui a donné le mot zizanie en français. Donc l'expression « semer la zizanie » qui signifie « semer la discorde, la confusion », et c'est bien de ça qu'il s'agit, dont il s'agit, vient donc de notre parabole. Autre précision agronomique, celle-là, l'ivraie est une plante herbacée, vous serez content de l'apprendre, de la famille des graminées, donc j'y suis très allergique à titre personnel, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ivraie dans ma vie, semblable au blé. Bien que ressemblant beaucoup à celui-ci, elle ne produit que des graines inutiles en lieu et place du grain. D'accord ? Ça, c'est pour les données techniques. Donc, avant que sa partie aérienne n'arrive à maturité, je parle du blé, il est pratiquement impossible, même pour les personnes les plus expérimentées, de la distinguer du blé. Cette ivrée est jusqu'à un stade assez avancé, totalement indétectable. On la prend pour du blé. Et jusqu'à un certain degré de développement, il est donc impossible de faire la différence entre les deux. Dans la parabole enseignée par notre Seigneur, le propriétaire du champ choisit de ne pas risquer de détruire le bon grain en essayant de déraciner l'ivraie. Tout simplement parce que les racines s'embifient les côtes dans le sol et qu'en arrachant l'un, vous risquez d'arracher les deux. Il décide plutôt, et il a le droit, il est propriétaire, il décide plutôt de laisser le bon grain et l'ivraie pousser ensemble jusqu'au moment de la récolte, de la maturité. Moment où les moissonneurs sépareront le bon grain de l'ivraie en s'appuyant dès lors sur la différence manifeste, visible, entre les deux. Quand il y a maturité, la différence entre les deux plantes est visible. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça ? Peut-être précision encore, puisqu'on va se poser la question du sens de cette parabole, bien entendu. Ben, apparemment, la grande majorité de la foule qui entend cette parabole n'a pas posé de questions. En tout cas, Matthieu n'en relate pas. Par contre, les disciples, eux, désirent connaître le sens, merci Seigneur, de cette parabole. Les douze veulent savoir. C'est la raison pour laquelle, d'après l'évangile de Matthieu toujours, les disciples demandèrent l'explication de la parabole à peine arrivés rentrés à la maison, maison qui était probablement celle de Pierre à Capernaum. Et voici comment Matthieu nous rapporte la scène. Alors Jésus envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Moi, ça me rassure toujours quand ils posent ce genre de questions, c'est qu'ils n'ont pas compris non plus. Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, donc la mauvaise herbe, ce sont les fils du malin, les fils du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ceux qui vont faire le tri à la fin des temps, ce sont, dit Jésus, excusez-moi, les anges. Je vais me moucher, je suis vraiment désolé. Merci. Ça va, c'est bon ? Okay. Arrêtons-nous tout d'abord sur les personnages. Celui qui sème la bonne semence, dit Jésus, c'est le Fils de l'homme. Alors ce vocable, cette appellation contrôlée biblique devrait vous dire quelque chose. Cette expression est celle qui est la plus utilisée par Jésus lui-même pour parler de lui. Ce nom fait référence à son humanité, comme quoi il est vraiment homme, il était vraiment homme, en tant que Fils incarné de Dieu, et au fait qu'il fut en tout point un homme parfait, sans défaut, sans tache, sans péché. À l'image donc du second Adam qui devait venir, second Adam qui est le nouveau représentant de la race humaine devant Dieu. Ce nom, Fils de l'homme, l'associe également à la prophétie de Daniel 7, 13 et 14 qui concerne le Messie, qu'on va prendre maintenant, c'est important. C'est Daniel qui parle. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. » Donc ce fils de l'homme vient d'en haut. Il a donc une origine divine. « Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours, qui est un des titres de Dieu, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font d'ores et déjà partie de ce royaume. Ça, c'est pour le Fils de l'homme. C'est vraiment le Fils de l'homme qui sème. D'accord ? Dans son champ. Selon Jésus, le champ, c'est quoi ? C'est le monde dans lequel nous vivons. Il est implicite que le semeur, c'est-à-dire le Fils de l'homme, est le propriétaire, et donc le propriétaire du champ. Il sème dans son champ, il en détient donc le titre de propriété. Bon, ça ça ne viendrait l'aider à personne de semer dans le champ de quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. C'est donc le Fils de l'homme qui est le propriétaire du champ en question. Et que plante-t-il dans son champ? Ça, c'est un peu étrange. Hein? Selon l'explication de notre Seigneur, il plante la bonne semence, c'est-à-dire les fils du royaume. Il ne sème pas la semence, c'est une drôle de semence. Ce sont des hommes et des femmes qu'il sème. Les enfants de son royaume sont donc les frères et sœurs du propriétaire. Ce sont les disciples de Christ, donc les chrétiens, ceux qui croient et qui sont soumis au roi du royaume. Et il les sème dans son champ, qui est le monde. D'accord ? Depuis la Pentecôte, on sème, Dieu sème. Puis à la chute de Jésus, les disciples, les apôtres et les chrétiens de tous les temps ont semé d'autres enfants du royaume dans le champ du monde. On peut donc déjà dire qu'indépendamment des apparences, le champ qui est le monde appartient à Christ. Je dis ça car en observant la violence, la criminalité, la dépravation, en nommant les agissements des hommes, on pourrait douter que ce monde ait pour propriétaire Christ. Et pourtant, c'est le cas. Il est le propriétaire légitime de ce monde jusqu'au jour où toute chose étant accomplie, après l'instauration de son royaume sur la terre, il remettra toute chose à son Père. Ça va jusqu'ici? C'est plus ou moins clair? Très bien. Identifions maintenant, grâce à Jésus, les derniers personnages de la parabole. Livrés, dit Jésus, ce sont les fils du malin. Il y a les fils du royaume d'un côté, et il y a les fils du malin de l'autre. Et l'ennemi qu'il a semé, ça, c'est un peu comme dans les BD Blake et Mortimer, le mauvais, à un moment, vous savez que c'est Ulrich, quoi. C'est toujours le même. Eh bien, dans la Bible et dans l'histoire du monde, l'ennemi, c'est toujours le même, c'est le diable. C'est notre Ulrich à nous. Ulrich, tu ne connais pas Blake et Mortimer? C'est pas... Ah, ben voilà. Ben, le mauvais dans l'histoire, c'est toujours Ulrich. Il n'y en a qu'un, le pauvre. Alors, ces fils du diable sont donc les non-croyants, ceux qui ne croient pas, qui ne font pas partie du royaume, par opposition aux croyants. Cette expression « fils du diable », qui est très forte, hein, tente en fait à rendre compte du statut spirituel de ces personnes. Statut qu'elles ignorent d'ailleurs la plupart du temps elles-mêmes. Elles ne savent pas, ceux qui ne croient pas en Dieu ne savent pas qu'ils sont en fait sous la domination du diable, qu'ils sont des fils du diable et qu'ils font les œuvres de leur père. Cette expression est d'ailleurs proche de celle utilisée par Jésus dans l'évangile de Jean lorsqu'il s'adresse aux chefs religieux qui sont supposés croire. Il leur dit, je vous cite ce passage, ce verset, « Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Pour des gens qui pensaient servir Dieu, vous admettrez avec moi que c'est solide ce qu'il leur dit. Et puis cet autre verset dans la première épître de Jean, c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice, autrement dit, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, à la parole du Christ, n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère, puisque l'amour est l'accomplissement de la loi de Dieu. Vous voulez servir Dieu, aimez. Voilà. Aimez tout le monde. Aimez votre prochain. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. C'est l'accomplissement de la loi. Alors, c'est clair, cette affirmation est terrible. Soit on croit, on est enfant du royaume, soit on ne croit pas en Christ et on est un enfant du diable. On dirait que ça fait une belle jambe à ceux qui ne croient pas de savoir qu'ils sont enfants du diable. Mais c'est quand même une expression terriblement dure. Mais cette réalité est vraie. Tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont des enfants du diable et font les œuvres de leur père. Tentons maintenant de comprendre le sens de la parabole. Celle-ci décrit en fait la réalité de notre monde d'un point de vue spirituel. Jésus nous dit, voilà à quoi va ressembler le monde. Mais il n'y a que vous qui le saurez, parce qu'il n'y a que vous, mes disciples, qui aurez les yeux pour voir cela, l'entendement, la compréhension, le discernement pour savoir cela. Les enfants non-croyants du malin vivent dans le même monde que les enfants de Dieu. Nous vivons dans le même monde. Ils n'ont rien en commun, on vient de le dire, et pourtant, ils se ressemblent. dit Jésus. Alors, je tiens à préciser d'emblée que cette parabole comporte un enseignement pour l'Église qui se trouve dans le monde et ne donne pas pour autant un billet d'entrée gratuite au monde pour qu'il pénètre dans l'Église, même si Satan sème aussi dans l'Église, puisque l'Église fait partie du monde, même si elle n'est pas du monde. Vous me suivez ? Première leçon, ceux qui font partie du royaume vivent dans la même réalité que les non-croyants. Nous respirons le même air. Pour l'instant, il vaut mieux pas respirer trop, mais mangeons les mêmes aliments, suivons les mêmes autoroutes, vivons dans les mêmes quartiers, travaillons dans les mêmes usines, fréquentons les mêmes écoles, consultons les mêmes médecins, achetons dans les mêmes magasins, bénéficions du même soleil et recevons la pluie en même temps que les non-croyants. Toutes choses que nous avons en commun parce que nous faisons partie du même monde. Cependant, ce que nous ne partageons pas avec eux, forcément, c'est une communion spirituelle. Vous pouvez forcément, et c'est mon cas, et le cas d'autres dans l'Église, je sais bien, être ami, profondément ami avec un non-croyant, il n'y a pas de problème, mais vous ne serez jamais en communion spirituelle avec cette personne, tant que cette personne ne deviendra pas un fils du royaume ou une fille du royaume. Je vais prendre ce texte de 2 Corinthiens 6, qui est un texte assez fort, je trouve, dans cette problématique, justement. 2 Corinthiens 6, 14, 16. « Ne formez pas par un attelage disparate, l'attelage en question, c'est le joug, vous rappelez, le joug. Donc, ne formez pas par un attelage disparate avec des incroyants. En effet, dit Paul, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal, donc entre vous et ceux qui pratiquent le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » À l'époque du temple, aucun non-croyant ne mettait un pied dans le temple. Alors, c'est un texte que l'on emploie aussi, c'est très général comme approche, hein, mais qu'on emploie aussi pour dire, si généralement, il faut quand même être conscient qu'on n'a pas grand-chose en commun spirituellement, on emploie souvent ce texte pour dire, n'épousez jamais un non-croyant. Quoi. Parce que vous n'êtes pas du même monde. Vous êtes dans le même monde, mais vous n'êtes plus du même monde. Et ça va provoquer des problèmes terribles. Voyons mon expérience pastorale, ça finit toujours de deux manières. Soit il y a un divorce, soit le chrétien retourne dans le monde. Et ne sert plus son Seigneur. Je ferme la parenthèse. Alors, il est une erreur qu'il faut, à mon sens, éviter lorsqu'on s'attelle à comprendre le sens de cette parabole. Une erreur, si vous voulez, qu'on a parfois commise. C'est de confondre le champ en question, dont parle Jésus, avec l'Église. Donc, que Jésus mettrait l'Église en garde au travers de cette parabole sur la présence en son sein de faux chrétiens, même si ça existe. Ce n'est pas la dimension dénoncée ici par Jésus. Ce n'est pas ça, c'est pas ça dont il parle, si vous voulez. Jésus le dit d'ailleurs très clairement. Le champ représente le monde et pas l'Église. Il est important de souligner que ce champ, c'est donc le monde et pas l'Église. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et me semble-t-il, la chose est d'importance puisque certains affirment que Jésus parle ici de l'Église. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait identifié dans cette parabole le champ à l'Église, puisque Jésus dit explicitement qu'il parle du monde? Eh bien, des théologiens et des chrétiens hostiles à la pratique de ce qu'on appelle la discipline ecclésiastique, la discipline de l'Église, pensent pouvoir faire appel à ce texte pour justifier leur point de vue. Ils sont d'avis que dans l'Église, il ne faut pas lutter contre la fausse doctrine et l'erreur, ni excommunier les pécheurs qui refusent de se repentir, mais qu'il faut laisser croître le blé et l'ivraie. Dieu reconnaîtra les siens à la fin. La seule résultante de ça, c'est la mort de l'Église, en fait, hein, si vous laissez faire ça. Si vous dites tout est bien, fais ce que tu veux, de toute façon, tout est bien, moi je t'accueille. Voilà, je parle des chrétiens, je ne parle pas des non-chrétiens, je parle des chrétiens. C'est clair qu'à un moment, l'Église, elle est par terre. Hein. Prenez l'exemple bateau, je sais de quoi je parle. Un adultère dans une église, si c'est mal géré, c'est l'Église est par terre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça. Mais si vous dites, oh, mais c'est pas grave, allez dire ça à celui qui est trompé ou celle qui est trompée, si c'est pas grave. Et c'est le boxon, et si vous ne gérez pas ça comme il faut, si vous ne mettez pas de la discipline, qui est de l'amour, la discipline, hein, et de l'intérêt pour ceux qui ont péché, vous laissez faire, c'est la mort de l'Église. L'Église locale, hein, j'entends, bien sûr. Alors, il est tout à fait clair que dans quelques cas de figure, Dieu reconnaîtra effectivement les siens à la fin. Il les connaît. Il les connaît même aujourd'hui, au moment où je parle. C'est d'ailleurs ce que dit notre parabole, puisqu'à la fin, il va faire le tri. Les anges vont faire le tri. Seulement, la parabole ne parle pas de l'Église, mais bien du monde. Il nous est demandé de lutter contre l'erreur par notre témoignage dans le monde et de ne pas la tolérer dans l'Église. Le péché dans le monde, vous n'y pouvez rien. C'est ce que Paul dira. Aux Corinthiens aussi, 1er aux Corinthiens. Mais le péché dans l'Église, ça c'est votre responsabilité. Et il ira même jusqu'à dire, vous serez appelés à juger les anges. Alors les gars, quand il y a un problème, il faut le gérer. Encore une fois, avec amour, miséricorde, tout ce que vous voulez, mais il faut le gérer. Mais ce péché, bien entendu, nous ne le supprimerons pas dans le monde. C'est bien pour ça qu'il va perdurer jusqu'au retour de Jésus et qu'il va le perdurer dans le sens qu'il y aura toujours des non-chrétiens à la fin des temps. Preuve que le péché sera toujours là. D'accord ? Nous, en tant qu'Église, nous ne mettrons jamais fin au péché dans le monde. Je vais le dire comme ça. Excusez-moi, je me bats avec ma page. J'ai des gros doigts. Ce n'est pas notre mission d'extirper le péché du monde et ce ne sera de toute façon pas possible tant que notre Seigneur ne sera pas revenu. De plus, si on y réfléchit, comment pourrait-on faire pour extirper le péché dans le monde de la vie de ceux qui ne croient pas en Dieu? Déjà que c'est pas possible dans la nôtre, déjà qu'y croyons. Hein, sur un objectif deux secondes. Ben, vous n'aurez qu'une solution, mes amis, c'est d'être violent. Hein. Ce sera la violence et la coercition, vous n'aurez pas d'autre moyen. Il faudra faire comme vous dites. Et vous allez faire comme ça en forçant les gens à faire ce que vous dites. Ça ne vous rappelle rien, ça? Alors, nous devons, bien entendu, témoigner, entre guillemets, contre le péché, bien sûr. Hein. C'est vrai, mais nous n'avons pas à le combattre en poursuivant ceux qui le commettent. C'est pas notre appel, c'est pas notre mission. D'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé chaque fois que l'Église a tenté de mettre de l'ordre avant le temps, en tentant de mettre fin au règne du péché dans le monde, en éradiquant ceux qui ne croient pas? Elle s'est fourvoyée en inventant l'Inquisition. Bon élève, hein, parce qu'il est devant. Alors, ce faisant, et c'est grave, hein, elle a non seulement désobéi à son Seigneur en utilisant une arme qui l'interdisait, la violence et Jésus, en faisant cela, on a aussi amené à un niveau rarement égalé la menace, forcément, et la coercition. Mais en plus, l'autre péché commis par l'Église à ce moment-là avait été de tenter de récolter avant le temps, et donc usurper par là une prérogative divine, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire le tri. Solide orgueil, là, quand même. Je ne serais pas protestant, moi, aussi. Chemin faisant, ça c'est encore peut-être le plus grave, elle a aussi tué dans le processus de véritables chrétiens, nés de nouveau, ayant l'Esprit Saint. C'est pas mal quand même. Qui a parlé de la poutre dans l'œil? Une chose demeurera jusqu'au retour de notre Seigneur, c'est ce que Jésus dit, livré, la mauvaise herbe poussera dans le monde et cohabitera avec le bon grain. Jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au jour du jugement qui évoque Jésus dans la parabole, il en sera ainsi. Vous pouvez danser sur votre tête, ce sera comme ça. Jésus n'interdit pas, pour autant, la discipline dans l'Église par le moyen de la parole de vérité et de l'amour, car cela entre dans les attributions que notre Seigneur lui-même a confiées à son Église. Vous verrez les références bibliques dans les notes si vous allez les voir cette semaine. Donc il ressort de l'explication donnée par Christ que la bonne semence, ce n'est pas la parole de Dieu ou l'Évangile, comme dans la parabole du semeur, mais des individus, les croyants, les fils du royaume. Le Fils de l'homme les répand dans le champ qu'est le monde, en les convertissant et en les plaçant sur le chemin de la vie éternelle. Et en tant que fils du royaume, ils en sont donc les héritiers légitimes. Ce que Jésus veut mettre en relief, c'est que les fils du royaume ont été semés dans le monde. Et au cours de son ministère, Jésus a ensemencé le monde de disciples qui ont été de loyaux sujets du royaume et livré ce dont son oncle est fils du malin. Satan identifié comme l'ennemi qui a semé livrer dans le champ et une contrefaçon de ce que Dieu avait accompli. Luther d'ailleurs, avait d'ailleurs cette formule pour rendre compte de cette réalité que le diable faisait toujours une seule chose. Il ne peut pas s'empêcher de singer les choses de Dieu. Il joue à Dieu, quoi. Mais il met de la contrefaçon, forcément. Il a jamais les plaques originales, lui. Il ne pourrait pas. Il a ensemencé le monde de personnes qui ressemblent aux disciples, parlent comme eux, et jusqu'à un certain point se comportent comme eux. Mais ils ne sont pas de vrais disciples. Rappelez-vous, mes amis, que pendant des siècles, je dirais jusqu'au 19e, l'Occident était extérieurement chrétien. Je dis bien extérieurement. C'est ce qu'on a appelé la chrétienté. Un grand foutoir, en fait. Une société, un monde en apparence chrétien, dominé sociologiquement par l'Église catholique, une Église ayant perdu le sens spirituel de sa mission, en voulant s'arroger la suprématie temporelle, chose sur laquelle notre Seigneur s'était pourtant clairement exprimé, en présence d'ailleurs, et c'est intéressant de le relever, du détenteur de l'autorité céleste de l'époque, à savoir Pilate, qui a l'autorité temporelle de Rome à ce moment-là. Et que dit-il ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, dit-il, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Qu'est-ce qu'ils ont été inventés ou tentés d'installer ce royaume ici par leurs propres moyens et par leurs propres forces ? Ce monde chrétien ne l'était donc pas. Car la grande majorité des personnes faisant partie de cette réalité sociologique de chrétienté n'étaient tout simplement pas de véritables enfants de Dieu. Il y a plein de Juifs qui se convertissaient pour qu'on ne leur coupe pas la tête, par exemple. Ils n'en demeuraient pas, néanmoins, ils demeuraient des Juifs. C'était qui disait ça ? Peu importe, on ne convertit personne avec des armes ou par la torture. Alors, il est clair qu'en faisant cela, ça c'est ma lecture, mais derrière tout cela, derrière ce projet de chrétienté, il y avait le diable, et je pense que sur ce coup-là, le diable, il a bien brouillé les cartes. Il a vraiment bien mélangé les cartes. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces terroristes islamiques qui pensent tuer des chrétiens en tuant des occidentaux. Ça vient d'où, ça ? Chrétienté. Temporalité. Pouvoir de l'Église ici-bas. Comme si les deux étaient synonymes. Occidental et chrétien. Alors que nous savons tous, nous, que ce n'est absolument pas le cas. Ou plus le cas. Encore donc un héritage catastrophique de cette longue période d'hégémonie d'une Église qui ne s'est pas comportée comme telle et qui comptait et compte encore en son sein de nombreuses personnes n'ayant jamais entendu le véritable évangile de la grâce. Ils ne pourraient pas croire puisqu'on ne leur parle pas de la grâce. On ne dit pas comment devenir un enfant de Dieu. Si vous voulez aller en Espagne et qu'on ne vous dit pas quelle est la route à suivre, vous n'arriverez jamais en Espagne. Croyez-moi, j'y vais tous les ans. Et c'est terrible parce que plein de ces personnes, il n'y a pas que dans cette église-là, mais plein de ces personnes, on peut avoir ça dans les églises protestantes aussi, hein, ce phénomène. Plein de ces personnes se pensent être quelque chose qu'elles ne sont pas. Et comme elles le pensent, elles ne chercheront pas plus loin. Et c'est terrible ça. Un non-croyant, il peut poser la question de Dieu et il va chercher Dieu peut-être à un moment. Il aura un désir, moi je veux savoir s'il y a un Dieu. Et il va se mettre en chemin. Si vous pensez déjà connaître ce Dieu, faire partie de sa famille, faire partie de son royaume, être un de ses disciples, vous ne chercherez plus. Vous penserez être et vous arrêterez de chercher alors que vous devriez continuer parce que vous ne l'êtes pas, justement. Pas pour rien que Jacques dit que les enseignants dans l'Église seront jugés plus sévèrement que les autres. Parce que par définition, on fait un tant soit peu confiance aux gens qui enseignent, me semble-t-il. Alors, cette période d'hégémonie est révolue aujourd'hui. Me semble-t-il, en tout cas. Peut-être encore fort présent en Amérique latine, mais en tout cas en Occident, Enfin, je parle ici en Europe, je pense que c'est fini. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas sans doute pas la seule cause, mais c'est une des causes. Elle a quand même comme conséquence la disparition programmée et progressive des valeurs chrétiennes dans un monde trop heureux de pouvoir se débarrasser du bébé avec l'eau du bain. Pourquoi croyez-vous que la France est devenue laïque en 1905 ? Ils ont expulsé les jésuites de France à l'époque. On oublie ça. Parce qu'ils ne, en 1905, là, en 1905, séparation de l'Église et de l'État. Donc, ils ont voulu casser cette hégémonie temporelle de l'Église en France. Ils ont dit, on n'en veut plus de ça. Et c'est le pays le plus laïque, le plus sans Dieu d'Europe, la France. Conséquence de ne pas obéir à son Seigneur. L'autre versant de la parabole nous est offert par la suggestion des serviteurs du propriétaire du champ d'arracher les mauvaises herbes. Les serviteurs, ils paniquent en voyant qu'on a commis cet acte. Ils paniquent, les serviteurs. Ils disent, tu veux qu'on les arrache ? Et le propriétaire dit non. Alors, cette proposition d'arracher, d'anticiper le temps, on en parle dans l'Évangile, ailleurs. C'est nos amis Jacques et Jean, surnommés à l'époque les fils du tonnerre, parce qu'ils avaient un caractère de cochon. Pour un juif, c'était pas facile. Ils avaient un caractère explosif, et voilà ce qu'ils proposent en Luc 9, 51-54. Je vous lis cette anecdote, mais elle rejoint ça, vouloir anticiper le temps. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusait de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Forcément, il y avait un tel antagonisme entre les Samaritains et les Juifs qu'il n'aurait certainement jamais hébergé des Juifs qui se rendaient à Jérusalem pour la grande fête, la fête de la Pâque. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, bon, je souris chaque fois que je dis ça, mais bon, dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ? Et franchement, moi j'imagine bien la tête de Jésus, là. Voilà, voyez, j'imagine. Il se sera simplement dit, heureusement, dans une semaine, ce sera fini. Et un peu plus tard, je leur envoie l'esprit, et c'est la troisième personne de la Trinité qui se débrouillera avec tout ça. Donc l'autre version de la parabole exprime donc la tentation pour les serviteurs de Dieu de détruire les enfants du diable avant l'heure, et le propriétaire du champ dit non. Mais au fait, pourquoi ? On sait, il dit non parce que c'est trop risqué, on risquerait d'arracher les bons avec les mauvais, soit. Mais il dit non d'abord parce qu'encore une fois, l'apparence, le mimétisme est justement trop grand. Le risque est de moissonner avant la maturité, avant que l'évidence ne se fasse jour. Et rappelez-vous ce que j'ai dit, j'ai cité toujours Jean dans sa première épître la semaine passée. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Quand vous marchez dans la rue, même quand vous êtes en discussion avec des gens, souvent on ne voit pas que vous êtes un enfant du royaume. On vous confondra avec celui avec qui vous parlez, qui ne l'est sans doute pas. Donc au temps de la moisson, il n'y aura plus aucun danger d'erreur, car le bon grain aura porté son fruit, et celui-ci sera visible par tous, par Dieu depuis le début, mais par tous. La ressemblance avec l'ivraie n'existera donc plus. La séparation pourra avoir lieu, et elle se fera infailliblement. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se fera pas par des hommes faillibles, justement. Imparfaits, pécheurs, mais par des anges, des créatures qui seront restées dans la présence de Dieu toute leur vie, depuis toute éternité, créatures parfaitement pures et parfaites. Et donc pas avant le temps, mais à la fin des temps. En attendant, il faut laisser croître les deux ensemble. Et ce faisant, et c'est le deuxième versant important de la parabole, Jésus nous ouvre une possibilité que la parabole ne pouvait pas statuer, mais qui est bien réelle. Dans le règne de Dieu, on se montre qui est déjà là et pas encore là, dans ce temps intermédiaire. Et cette réalité, tu peux mettre la suivante, c'est que ceux qui, je cite saint Augustin, ceux qui aujourd'hui sont ivrés, que ceux-là soient demain, froment qu'ils deviennent du blé. Mes amis, vous étiez quoi avant d'être du blé ? Tous les hommes en essence sont de l'ivraie, sont des mauvaises herbes. Et vous, en tant que chrétien, vous allez arracher du monde, détruire des gens parce qu'ils ne sont pas du blé. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est quoi? Faire en sorte que l'autre, que l'ivraie, devienne du blé. Les chrétiens que nous sommes, la bonne semence que nous sommes, avons été dans le passé délivrés. Et revoilà, si vous vous rappelez, la première parabole du semeur, et revoilà la semence qui, arrivée à maturité, sème à son tour. Le blé pousse, il redonne des graines, on reprend les graines, on resème, il repousse, etc. Voilà. Après tout, n'est-ce pas là le rôle actuel des enfants du royaume en ce monde? On sert à quoi ici-bas? Mis à part louer Dieu, bien sûr. On sert à partager notre espérance en ce monde. Partager la bonne semence avec ceux qui ne le sont pas encore. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.